Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce soir à la place de la France au Sahel. À l'ordre du jour ce soir, Sahel, la France-Afrique est-elle renforcée par la lutte contre le terrorisme? L'aller-retour à N'Djamena du président français pour les obsèques du président tchadien Idriss Déby a montré l'importance que ce pays tient dans le dispositif militaire français au Sahel. Mais elle a conduit hier aussi à des manifestations dont un des slogans était « Macron missionnaire de la France-Afrique ». Un slogan qui ravive le souvenir de la présence militaire, politique et économique française dans la région. Alors même que ce président n'a cessé de critiquer ce reste de notre colonisation jusque dans l'entretien accordé aux journalistes Antoine Glaser et Pascal Hérault pour leur livre « Le piège africain de Macron » qui vient de paraître chez Fayard. Emmanuel Macron y dit entre autres que la France-Afrique va passer car c'est générationnel, je cite, tandis qu'il accuse les Russes et les Turcs d'être de leur côté des néocoloniaux au Sahel. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit notre débat, donc la France-Afrique renforcée par la lutte contre le terrorisme avec nos trois invités. Marielle Debeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre, à l'Institut des sciences sociales du politique et autrice entre autres du livre Le métier des armes au Tchad aux éditions Cartala, c'était en 2013. Avec nous également au téléphone à distance, Hamzad Boukhari Yabara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja et auteur notamment de Africa Unit, une histoire du panafricanisme à la découverte, et vous êtes en train de coordonner un livre sur cette notion de France-Afrique. Et enfin, à Sereine Mauborgne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée LROM du Var, co-rapporteur de la mission d'information sur l'opération Barkhane.
La France ne laissera jamais personne le remettre en cause. Et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés.
Vous l'avez reconnu, évidemment, c'était Emmanuel Macron lors des obsèques du président tchadien il y a 5 jours. D'abord, peut-être s'interroger sur ce terme de France-Afrique, Marielle Debeau, qui nous vient presque naturellement quand on parle de la question de la présence de la France dans ses anciennes colonies de l'Afrique occidentale ou encore de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est bien de continuer à utiliser ce terme, par exemple pour la région du Sahel dont on va parler aujourd'hui ?
À l'origine, le terme a été forgé par l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et il désignait des rapports positifs entre la France et l'Afrique, et c'est un projet qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, le terme est utilisé de façon très critique par des militants, vous l'avez dit hier dans les rues à N'Djamena, mais aussi par des militants en France. C'est par exemple un terme qui est mobilisé par l'association Survie ici en France. Et évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux particularités à la politique française en Afrique. La première, c'est qu'on a des discours chauvins sur les valeurs de la France, sur la démocratie, sur la défense des droits humains. Et évidemment, la France défend ses intérêts comme la Chine, la Russie défendent aussi leurs intérêts en Afrique. Mais la particularité de la France, c'est aussi d'accompagner cette défense des intérêts de grands discours sur la démocratie. Et l'autre particularité, c'est ce maintien depuis les indépendances dans les années 1960, enfin en 1960 pour la plupart des anciennes colonies françaises, de liens qui sont des liens politiques, économiques, des liens d'affaires. Et on ne retrouve pas la même chose avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas du tout les mêmes rapports avec le Ghana que la France, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, pour prendre deux pays en Afrique de l'Ouest.
Oui, et sur ce point, Hamzad Boukhari Yabara, vous qui êtes en train d'y travailler en tant que militant pour le panafricanisme, est-ce que vous pensez que justement que cette évolution est grande et que, comme l'a dit le président dans ce livre qui vient de paraître, Le piège africain de Macron, la France-Afrique, c'est une question de génération, c'est générationnel et ça va disparaître avec la disparition des générations justement qui ont forgé ce rapport particulier de la France avec ses anciennes colonies?
Alors, je ne le pense pas nécessairement parce que dans la dimension générationnelle, il y a une dose de paternalisme qui est assez structurelle dans les relations entre la France et ses anciennes colonies. Et cette dimension paternaliste est institutionnalisée. Elle est visible à travers effectivement le franc CFA, à travers les bases militaires, à travers la francophonie, à travers tout un ensemble de relations particulières et spécifiques qui font que on va parler du couple France-Afrique, de la famille France-Afrique, de la communauté France-Afrique, et qui renvoie au fait que la France, contrairement aux autres acteurs qui ont fait l'histoire coloniale, la France n'a jamais totalement décolonisé. Parce que dans son modèle même de colonisation, elle s'est fondée sur le principe de l'assimilation qui tendait à faire des Africains des égaux des Français. Et donc ça, je dirais, ça nuance énormément cette idée que la France-Afrique ne serait qu'une affaire de génération, puisque l'on voit bien que ce terme-là, dont on dit qu'il est constamment désuet, ne cesse de revenir sur le devant de la scène. Et les générations actuelles, du côté africain en tout cas, sont, je pense, de plus en plus critiques et de plus en plus conscientes de la charge que porte ce concept-là.
Sœur Edmo Borgne, vous qui avez été co-rapporteur de la mission d'information sur l'opération Barkhane, est-ce que vous considérez que ce terme est encore valide? Le président soi-même l'utilise, vous êtes député LREM, l'utilise en disant « oui, ça me gêne à chaque fois, je vois des rémanences de cette France-Afrique mais, et elles me mettent mal à l'aise, mais néanmoins ça n'est pas une fatalité ».
Je pense qu'effectivement le président a d'abord la sincérité de reconnaître les freins qui peuvent permettre l'émancipation des chefs d'État africains et l'évolution de la politique française extérieure en Afrique. Donc je pense qu'il a le courage de reconnaître ces difficultés auxquelles lui-même se heurte et ces espèces de relents de France-Afrique, même si je ne partage pas complètement le point de vue et je suis assez curieuse de savoir ce que le professeur Hamzat Boukhari Yabara sortira dans son livre à propos notamment de l'évolution sur le franc CFA qui quand même est en pleine révolution depuis mai 2020. Donc comment il interroge cette question-là?
La transformation du CFA en particulier par l'écho. Donc ça, c'est le changement de terme et on dit souvent, enfin certains disent que c'est un changement de terme mais ça ne correspond pas à un changement véritablement considérable de la relation même si il n'est plus le lien n'est plus avec la France, mais avec l'Europe. Mais enfin, on va peut-être en discuter plus tard, sur Edmo Borgne. Je vous laisse continuer.
Donc, avec le Trésor français est tout à fait remis en question. Oui. Donc, ça va quand même plus loin qu'un nom simplement sur la monnaie. Je pense que voilà, Emmanuel Macron a le courage de reconnaître qu'il y a des freins parfois à l'évolution vers un partenariat et qui, au sens finalement étymologique du terme, dit bien que nous sommes liés par un héritage et que nous avons à chacun à faire notre part, puisque c'est étymologique dans le mot partenariat. Et moi, je crois très fort au renouvellement générationnel, y compris chez les chefs d'État africains, et qui forcément débouchera sur... Et quand on voit d'ailleurs l'aspect aussi démographique, on voit bien que les enjeux pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que leurs aînés d'hier.
Alors, on voit peut-être justement cette position intermédiaire d'Emmanuel Macron critiquant l'existence encore de reste de cette France-Afrique, mais en même temps tissant des liens avec le nouveau président, celui qui a pris la place d'Idriss Déby au Tchad, Marielle Debeau, puisque il a d'abord été se rendre sur place, il a félicité, enfin il a dit qu'il soutiendrait justement, c'est ce qu'on a entendu, les nouveaux gouvernements, mais hier il a dit de la répression de la manifestation N'Djamena, qu'il l'a condamné. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce d'ambiguïté de ne pas savoir exactement comment pouvoir, justement, quelle place tenir en tant que président français dans une région qui est très importante au point de vue stratégique à cause de Barkhane.
Oui, hier, Emmanuel Macron a dit qu'il ne validerait pas un plan de succession. Et donc là, il fait référence au fait que le fils d'Idriss Déby, l'un de ses fils, a pris la suite et a créé tout de suite après le décès du père un conseil militaire de transition. Mais la première réaction officielle de la France a été d'entériner ce coup d'État. Parce qu'il faut bien l'appeler un coup d'État. La junte militaire a pris le pouvoir, a dissolu le gouvernement et l'Assemblée. Et les premiers communiqués officiels ont été de prendre acte de la création de ce conseil militaire de transition sans prendre la peine, ce qu'ont fait par exemple les Américains, de dénoncer ce qui était un coup d'État. Et cette position, elle est doublement problématique.
Ambiguë ou...
Aujourd'hui, Emmanuel Macron tente de faire marche en arrière, mais ce qui restera aussi dans l'histoire, c'est cette image absolument choquante d'Emmanuel Macron au premier rang pour les obsèques, juste à côté du fils d'Ebi, entré militaire.
Mais néanmoins, on peut considérer, Soren Mauban, que dans le contexte actuel de l'opération Barkhane, il était important que le président se rendît justement à N'Djamena pour pouvoir marquer, disons, l'importance de ce pays et du Tchad dans cette opération qui compte beaucoup pour la France.
Absolument, et dont l'investissement de la part de l'armée tchadienne est tout à fait capital et majeur, puisque c'est une armée qui, effectivement, dans le contexte de sa propre frontière, commet des actes qui sont tout à fait répréhensibles en termes de musellement des oppositions, pratique de la torture dans les prisons, etc. Mais néanmoins, en tant que combattant, et le père d'Ebi avant sa mort, avait assuré de l'engagement de nouveaux soldats, avait aussi pris des engagements qui me paraissent très importants, notamment en matière d'impunité et de corruption, de lutte contre l'impunité et la corruption pour ses propres armées, puisque il y a environ 3 semaines, il y a eu des viols qui ont été commis par des soldats tchadiens au Niger et qu'il a dénoncé. Il a d'ailleurs déclenché pour la première fois une saisine des cellules de condamnation des actes de guerre. Donc je pense que il faut toujours prendre les choses à mesure qu'elles arrivent. Et je pense que l'attitude du président Macron, ça a été de dire « je suis là à présent aux obsèques d'un partenaire majeur au Sahel ». Et dans la foulée, et pour moi il n'y a pas vraiment d'incohérence, il dit « j'empêcherai tout le monde d'aller contre la transition ». Et 3 jours après, quand il dénonce l'attitude du fils d'Ebi qui procède à une répression dans son pays avec des morts à balles réelles, en tirant à balles réelles sur sa population, il le dénonce. Donc il dénonce tout le monde, y compris même le président de la junte militaire.
Est-ce que la difficulté, Hamzat Boukhari Ouahara, ça n'est pas pour la France de voir monter justement une génération qui n'est pas cette génération de dirigeants qu'ont connu les précédents présidents français à la tête des pays des anciennes colonies, mais une génération qui est un peu moins expérimentée peut-être, mais qui sont ceux qui descendent dans les rues, qu'on appelle cette société civile en Afrique, et qui, hier, par exemple, N'Djamena s'est fait tirer dessus par le pouvoir.
Oui, très certainement. Disons qu'il y a aujourd'hui une libéralisation de l'information et en même temps des demandes sociales qui ne sont absolument pas regardées par les différents acteurs étatiques. Et le sentiment, d'une certaine manière, que Paris entretient des impasses politiques dans ces pays par la voie militaire, à travers notamment des répressions, des alternatives africaines et panafricaines, au nom de la stabilité de certains territoires.
Et donc, qu'est-ce que vous appelez les répressions africaines et panafricaines ? Qu'est-ce que vous voulez pointer du doigt, Hamzat Boukhari Ouahara ?
La manière dont un certain nombre de dirigeants africains bénéficient d'une impunité à leur niveau direct pour notamment traquer les oppositions. Et donc cela pose, je pense, un souci, effectivement, dans la manière dont le discours est produit, dans la manière dont l'autoritarisme est devenu une manière de gouverner en Afrique francophone, et dans la manière dont le récit français en Afrique est aujourd'hui très contesté par de nouvelles générations qui, d'une certaine manière, se forment à l'esprit critique dans le cadre de cette présence française qui est très contestée. Et donc la jeunesse africaine d'aujourd'hui développe une conscience géopolitique pour le pire ou le meilleur, et dans le cas du meilleur, elle renvoie à d'autres dirigeants de l'histoire du continent africain, notamment Modibo Keïta et Thomas Sankara. Thomas Sankara qui est un militaire qui avait une toute autre gestion du pouvoir que des pouvoirs militaires ou militaro-civils que nous voyons aujourd'hui.
Modibo Keïta qui était un dirigeant malien. Et Thomas Sankara, qui était le dirigeant de ce qui est devenu le Burkina Faso, qui était auparavant le Volta.
Exactement. Donc tous ces éléments-là font que on dresse des parallèles et des comparaisons qui montrent que d'autres voies sont possibles, d'autres alternatives sont possibles, au-delà de la dépendance vis-à-vis de la France et au-delà de la soumission à des régimes néocoloniaux qui n'apportent aucun développement. Et c'est cette alternative-là qui aujourd'hui est totalement bloquée par la logique purement sécuritaire du débat politique.
Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres régimes néocoloniaux, c'est ce que dit dans le livre Le piège africain de Macron, dans l'entretien qu'il donne à Antoine Glaser et à Pascal Hérault, le président Macron. Les Russes et les Turcs, dit-il, sont des régimes néocoloniaux. Sur ce point, Marielle Debeau, on peut dire qu'il y a un marché ouvert maintenant pour les dirigeants africains de tout un tas de pays qui voudraient bien se rapprocher de ces pays. La Chine, on le sait, pour les points de vue économiques, mais aussi la Turquie, la Russie, les États-Unis, qui sont tous présents dans cette zone et qui sont donc deviennent donc des concurrents de la présence française, économique, politique, militaire.
Oui, il y a de plus en plus d'États et aussi d'entreprises de différents pays qui sont aujourd'hui en Afrique et qui font des affaires. On est aussi dans un moment où, de toute façon, pour la France et pour les Occidentaux, il est très difficile de se poser en modèle. La France et les Occidentaux ne sont absolument plus une référence, et pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a un décalage flagrant entre les principes prônés par la France et les politiques menées dans ces pays, et aussi parce que les démocraties vont mal. Elles vont mal en Europe, elles vont mal aussi sur le continent américain, et par exemple au moment de la mobilisation des supporters de Trump qui sont entrés dans le Capitole. Il y a eu des éditoriaux ironiques, absolument délicieux, des intellectuels africains qui ont ironisé en proposant aux Américains leur aide pour des processus de démocratisation, de résolution des conflits. Et je pense que quand on parle de nouvelle génération, on ne parle pas juste d'une nouvelle génération qui serait indisciplinée et qui serait une menace. Enfin, ce n'est pas juste un sentiment anti-français, c'est aussi une nouvelle génération d'intellectuels, d'élites dans ces pays qui pensent autrement, d'autres modèles politiques et qui osent, et ils ont bien raison, se moquer des Français ou des Américains.
Sorine Mauborgne, je vous donne la parole, députée LREM du Var et co-rapporteur de la mission d'information sur l'opération Barkhane.
Merci. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse sur les points d'humour de l'Afrique. C'est aussi un des points forts de l'esprit africain, mais on peut quand même aborder aussi la question du sursaut civil en disant que d'abord il y a un défi énorme qui s'offre à la fois aux pays africains mais aussi aux pays qui accueillent les diasporas notamment étudiantes. Je pense au Liban qui a longtemps été le seul institut d'études politiques par exemple de l'Afrique. Je pense aussi évidemment à la France. Et ce que dit Emmanuel Macron dans le discours de Ouagadougou, qui est très clair, c'est vraiment on offre la possibilité aux diasporas étudiantes de venir étudier en France et de faciliter leur retour au pays pour finalement apporter des nouveaux regards politiques. Sur la question du sursaut civil, il est évident que d'un point de vue démographique, les États africains ont aujourd'hui un défi immense à relever qui est l'éducation. Et que on ne peut pas ignorer que les manipulations informationnelles sont très importantes dans les prises de position qui sont aujourd'hui dans la rue, à N'Djamena, au Niger ou ailleurs.
Est-ce que ce sont seulement des manipulations, ou est-ce qu'au bout du compte, ce sursaut civil, c'est aussi un signe de cette vitalité que vous décrivez, ce Red Mover, mais qui se retourne contre la France? C'est possible aussi.
Bien sûr, mais il faut pas négliger deux aspects dans ces choses-là. C'est à la fois la manipulation de la part de grands États qu'on a cités tout à l'heure, notamment la Russie et la Turquie, et aussi les problèmes religieux qui sont sous-tendus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a aussi une mainmise des religions à vocation politique qui ne sont pas du tout neutres dans l'évolution des consciences. Et s'il y a un marché ouvert, c'est bien celui des consciences politiques des peuples, à mon sens.
Hamzat Boukhari-Yabara.
Oui, ben écoutez, je pense que la France transpose sur l'Afrique un certain nombre de ses problèmes, notamment vis-à-vis de l'islam, parce que les Africains et les Français n'ont pas forcément le même ennemi ou la même problématique. Il y a des questions d'unité, des questions d'identité très fortes qui se posent dans les anciennes colonies françaises, qui sont liées au fait que les décolonisations ne se sont pas passées dans des conditions propices à rendre viables ces États ou ces États-nations. Il y a également des questions effectivement de développement, des questions d'éducation, des questions de pauvreté qui me semblent extrêmement importantes à souligner aujourd'hui. Mais néanmoins, je ne vois pas fondamentalement parlant le djihadisme aujourd'hui s'implanter dans la vitalité de la jeunesse africaine que nous connaissons dans ces pays-là. C'est donc qu'il y a aussi d'autres problématiques qu'il faut soulever. Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière des éléments de géopolitique larges. Il est impensable, par exemple, d'imaginer le président russe ou le président turc se comporter de la même manière que se comporte le président Macron en Afrique, tout simplement parce que la France est le seul pays qui dispose d'un certain nombre de structures qui lui permettent de se positionner de cette manière-là. Et donc, il faut que la
France accepte... Vous parlez quoi des bases militaires? Vous parlez de quoi
Des bases militaires, la francophonie, la diaspora, tous ces éléments-là d'histoire font que la France doit accepter aussi d'endosser la charge critique de sa politique. Et force est de constater qu'il y a un déni constant, qu'il y a un rejet constant sur d'autres acteurs, les Russes, les Turcs, les djihadistes, etc.
Ils sont bien là. Ils sont bien là, néanmoins. Ils sont bien là,
comme ils ont toujours été là. C'est-à-dire que l'Afrique avait déjà des relations avec les Britanniques.
Bien sûr.
Les Russes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est des éléments à souligner. D'autre part, on ne peut pas non plus, exclure le fait que la France a un très mauvais récit vis-à-vis justement de ses rivaux. Et je pense que la plus belle publicité à la Russie et à la Turquie, c'est effectivement la manière dont le cas tchadien a été géré il y a 5 jours.
Vous écoutez le temps du débat, il est 18h42. Le thème du temps du débat ce soir, c'est Sahel, la France-Afrique est-elle renforcée par la lutte contre le terrorisme, en compagnie de Hamzat Boukhari Yabara, vous venez de l'entendre, historien, de Marielle Debeau, chercheuse à Paris-Nanterre à l'Institut des sciences sociales et politiques, et de Soren Mauborn, députée LREM du Var.
Jusqu'à destin pour casser. Vive Giscard d'Estaing!
Quand le moment est venu, et il est venu,
la sagesse nous commande d'être pragmatiques.
Reconnaître à tous le droit de disposer d'eux-mêmes.
France Culture.
Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons.
Le temps du débat.
C'était le devoir de la France.
La France affirme son engagement en Afrique.
Qui agissait au nom de la communauté internationale.
Emmanuel Laurentin.
Du coup, il est parti réparer la climatisation.
Voilà un petit florilège de quelques secondes. Vous venez d'entendre 60 ans de France-Afrique à travers la voix de président qui parlait de l'Afrique. Marielle Debeau, quand on avance justement dans ce débat sur la place de la France dans cet espace géographique, la concurrence avec les autres pays, il y a aussi pas simplement le public, il y a aussi le privé, il y a des entreprises françaises qui sont très présentes et qui sont très présentes depuis la décolonisation. Entreprises qui d'ailleurs, curieusement, sont critiquées par le président dans cet entretien, le piège africain de Macron. Il dit que les entreprises se moquent, nos entreprises se moquent des Africains. Mauvais délai, mauvaise efficacité, mauvais prix, profitent un peu de ce marché qui leur a été dévolu après la colonisation. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette critique d'un président politique, donc vis-à-vis des entreprises françaises qui sont présentes dans ce territoire-là, Marielle Debeau? Est-ce que c'est une justification? Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit différente? Parce que tout compte fait, on sait aussi que autour des diplomates français, il y a évidemment des entreprises françaises qui viennent et qui remportent des marchés.
Il y a une dimension économique forte, évidemment, dans ce qu'on appelle la France-Afrique. Et il y a des secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont concurrencées, d'autres moins, et en fonction des pays, la domination va prendre une tournure plus économique ou plus sécuritaire. Par exemple, au Cameroun, c'était l'empire Bolloré, enfin jusqu'à ce qu'ils perdent
le port de
Douala, et Vincent Bolloré reste un entrepreneur important en Afrique, avec aussi des réseaux qui sont très problématiques. Pour d'autres pays, par contre, cette lecture économique ne marchera pas. Et c'est le cas du Tchad. Le Tchad a du pétrole, mais ce pétrole est exploité par les Américains, par les Chinois, par les Malaisiens, pas par les Français. Mais par contre, on a des intérêts qui ne sont des intérêts militaires au Tchad. C'est le pays où l'armée française est le plus intervenue depuis l'indépendance. Et donc, en fonction des pays que l'on regarde, on va avoir des relations qui vont être plus du côté de l'économie ou plus du côté de la sécurité.
Soraya Mauborgne, dans le rapport que vous avez remis, vous êtes co-rapporteur de ce rapport sur la mission d'information à l'Assemblée nationale sur l'opération Barkhane. Vous évoquez ce qui a été dit tout à l'heure par Hamzat Boukhari Yabara. Je ne voudrais pas à tout prix vous rapprocher justement de ces thèses, mais néanmoins, vous dites aussi, il dit, il y a un récit français qui ne prend plus. Vous dites qu'il y a une bataille du récit qui est loin d'être remportée justement face à la Russie comme compétiteur stratégique de premier plan, à la Turquie, à la Chine, etc. Ça n'est qu'une bataille du récit ou c'est autre chose que cela ?
Écoutez, moi je pense que sur la Russie, par exemple, il y a quand même une histoire de l'international socialiste qui fait qu'il y a quand même une présence dans l'élite politique aujourd'hui de certains pays, parce qu'on parle de tous ces pays, mais ils ne sont pas monobloc.
Bien sûr,
et vous avez raison. Marielle Debosse vient de nous le rappeler avec beaucoup de justesse. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de chefs d'État africains ou de généraux qui ont été formés, par exemple, en URSS, dans l'ex-URSS, et qui aujourd'hui portent des valeurs qui sont celles de leur formation initiale. Donc je pense que chaque pays a sa zone d'influence, mais sur l'intelligence économique, par exemple, on voit bien que la Chine ne fait pas de politique, mais en revanche, elle prend tous les marchés qu'elle peut, et en matière de qualité des infrastructures, je pense que ce que Monsieur le Président de la République reproche à nos entreprises françaises parfois, on peut aussi tout à fait tourner notre regard du côté des infrastructures chinoises. Mais la Turquie
joue aussi une énorme
partition, notamment sur les aéroports en Afrique.
Oui, il le dit, je vous rassure, parce qu'il critique la Chine en disant qu'au bout du compte, les Africains se rendront compte que les prestations sont pas bonnes, sont bien de moins bonne qualité que les prestations françaises et que dans les prochaines années, ils vont payer les conséquences que nous avons connues nous-mêmes quand on a mal fait le boulot, dit le président de la République. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette bataille du récit aussi, Hamzat Boukhari Yabara, de la présence française dans cette région du Sahel et de l'Ouest africain?
Je pense que c'est une bataille du récit qui est globale. Récemment, on a vu donc le retour des mémoires autour de l'Algérie, autour du Rwanda. On pourrait aussi parler du Cameroun, de Madagascar. Donc, il y a toute une histoire aujourd'hui qu'il faut regarder de la manière la plus honnête possible.
Et on peut dire que là, le président français, en tout cas, tente de faire sortir des choses que d'autres présidents avant lui n'avaient pas fait.
Je ne sais pas, parce qu'on n'apprend pas nécessairement beaucoup de choses dans tout ce qui sort actuellement. Je pense qu'on est aussi dans une gestion du temps du récit, qui est sans doute aussi marquée par des intérêts politiques. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de la jeunesse africaine, il y a une soif de connaître son histoire et de retrouver justement ces grandes figures anti-impérialistes, anti-colonialistes qui ont symbolisé une fierté du continent africain sans être forcément dans une rupture avec la France, mais vraiment dans une solidarité plus globale. Mmh. Et ce qui nous amène au fait que ce qui est contesté dans le récit, ce n'est pas les Français en tant que peuple français, mais c'est vraiment une certaine politique de la France en Afrique qui ne passe plus. Et que cette contestation touche également la question des diasporas africaines en France. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, beaucoup plus global et qui nécessiterait de sortir d'une forme de caporalisation des relations entre la France et l'Afrique, vue de manière large, mais qui se résume en partie aux anciennes colonies françaises, mais pour des intérêts économiques à d'autres espaces du continent africain. Et faire de cette histoire, je pense, un véritable,
récit commun.
Je ne dirais pas un récit commun parce que je ne vois pas forcément l'intérêt d'un récit commun, mais permettre au moins, en tout cas faire en sorte que les Africains soient la solution à leurs propres problèmes. Mmh. Et tant que la France a une position qui amène les positions africaines à être franco-centrées, ce sera impossible de trouver une solution aux problématiques militaires, politiques, économiques que nous connaissons.
Soraya Mauborgne et puis Marielle Debeau.
Alors moi, je pense que s'il y a un point sur lequel je me rapproche d'Hamzat Boukhari Yabara, c'est effectivement la question d'arrêter d'avoir une espèce de focalisation sur les relations franco-africaines. D'abord, les diasporas, elles ne sont pas présentes qu'en France. Je pense à l'Italie, par exemple, où il y a énormément d'Érythréens et de Somaliens. Et si l'Union africaine reconnaît la diaspora comme un État en tant que tel de l'Union africaine, c'est bien parce qu'il y a des Africains partout sur le continent. Et je voudrais dire que on ne peut pas faire comme si le sommet de N'Djamena n'avait pas eu lieu au mois de février. Ce qui s'est dit sur notamment la construction du roman national, tout ce travail qu'il y a à faire sur les veuves, des casques bleus, des gens qui se sont engagés, des Africains qui se sont engagés pour l'ONU, dans la MINUSMA, etc. La question des anciens combattants, de la reconnaissance des anciens combattants, et à la fin, la construction du roman national autour de l'implication des pays africains, notamment dans la sahélisation du conflit pour ce qui concerne Barkhane en ce moment, mais pas seulement, dans la stabilisation globale de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est le sujet qui nous anime ce soir. Je pense que cette construction du roman national, ce travail mémoriel qu'il y a à réaliser, il n'est pas du tout centré vers la France, et je pense que c'est un vrai enjeu pour la construction de la mémoire et donc de l'avenir de la jeunesse africaine.
Marielle Debeau.
Oui, je pense qu'on peut pas penser l'histoire en termes de roman national. Je pense que ce qui est très problématique aujourd'hui, et pas uniquement à propos de l'Afrique, c'est de vouloir avoir un enseignement de l'histoire qui soit l'enseignement du roman national. Sur cette question, Emmanuel Macron est un peu le président des gestes symboliques, mais certains ont quand même une importance. Je pense au rapport de Felwitzar et Bénédicte Savoie sur la restitution du patrimoine africain. Bon, évidemment, ce n'est qu'un rapport, mais il va falloir. Et
pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui ont quitté les musées français pour rejoindre les musées africains. Mais enfin, ça a commencé tout doucement.
Hein, oui, et
avec beaucoup de réticence.
Et c'est ce que je voulais souligner, c'est que Emmanuel Macron veut être aussi un président de la rupture et va avoir de cette façon quelques gestes symboliques, mais derrière il y a des structures qui elles ne bougent pas. Il n'a pas été question de fermer, de retirer Barkhane. On peut se poser la question. Les Américains actuellement, avec Joe Biden, sont en train d'annoncer leur retrait d'Afghanistan. Ils y sont depuis près de 20 ans. On sait que cette guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée, et donc la question se pose aujourd'hui de savoir ce que l'on fait avec l'opération Barkhane.
Oui, ça c'est une question directement dans votre jardin de parlementaire, Soren Mouborn. Qu'est-ce qu'on fait avec Barkhane? Quand on lit le rapport parlementaire, c'est un rapport très favorable à Barkhane. Vous dites que c'est un socle robuste de la lutte contre le terrorisme. Vous expliquez que effectivement il faut mettre en œuvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sursaut civil dans cette région, qu'il y a la question du développement qu'il ne faut pas oublier, parce que la question militaire n'est pas la seule solution. Mais cette solution radicale que propose Marielle Debeau, vous n'y croyez pas du tout, c'est-à-dire dire voilà, on ne peut pas gagner cette guerre contre le terrorisme, il faut partir.
Alors vous savez, on a auditionné énormément de chercheurs qui sont spécialisés sur l'Afrique, pardon pour Marielle qu'on n'a pas auditionné.
Oui, mais vous avez souvent Niagale Bagayoko
On a eu aussi le professeur Antil, enfin plein de gens. Je pense que ce qui est ressorti vraiment des discussions, c'est que même les gens qui étaient les plus promoteurs de la souveraineté des peuples africains nous ont dit, si demain Barkhane s'en va, c'est le chaos. Et nous, on voit vraiment Barkhane comme un des éléments, des piliers de développement notamment. J'entendais cet après-midi, j'écoutais en podcast la magnifique émission que vous avez faite sur la muraille verte. Oui. Et l'ensemble des gens qui sont aujourd'hui à la Banque mondiale, au FMI, et qui œuvrent à la mise en œuvre des 80% qui restent à mettre en œuvre de la muraille verte, disent bien que dans les zones où finalement la sécurité n'existe pas, c'est très compliqué de travailler. C'est compliqué de travailler pour les ONG, c'est compliqué de travailler pour aussi les élus locaux qui ont à gérer à la fois cette problématique sécuritaire, les problématiques de justice, de pastoralisme, d'accès à l'eau, etc., et d'accès à la justice, en plus d'un développement et de perspectives de développement à l'horizon de plusieurs années. Donc je pense que cette idée de dire l'effet final recherché de Barkhane, c'est de mettre les groupes armés terroristes à portée des armées locales, c'est un objectif qui reste plein et entier. La question aussi de la lutte contre la corruption, parce que faire revenir un État, si c'est pour faire revenir un État prédateur, et ça c'est le professeur Antil qui le dit, ce n'est pas moi, c'est aussi une question qu'il faut interroger et améliorer. Donc je pense que Barkhane va continuer à se transformer au profit des armées locales. Et évidemment, l'armée tchadienne a toute sa part à jouer, au même titre que l'armée nigérienne, burkinabé, mauritanienne ou malienne.
Marielle Debeau et puis Hamzat Boukhari-Yabara.
Oui, je ne dis pas que Barkhane doit plier bagage demain de façon soudaine, ça pourrait avoir des effets tout à fait néfastes, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un débat en France sur la guerre contre le terrorisme qui est menée au Sahel et au Sahara, et qu'on prenne en compte ce qui devrait être une évidence, qu'il n'y a pas de solution militaire à des problèmes qui sont éminemment politiques. La crise au Sahel et au Sahara aujourd'hui ne peut pas être vue uniquement sous l'angle du terrorisme et du contre-terrorisme. C'est aussi une crise de légitimité des États de la région, des discussions qu'il faut avoir et que surtout les habitants de ces régions doivent avoir sur la répartition des richesses. Et l'opération Barkhane, certes, a eu et aura certainement encore des succès tactiques, des succès militaires, mais c'est aussi une opération qui est utilisée par les acteurs locaux, qui va permettre à des milices d'autodéfense, par exemple, de capter les dividendes de la guerre contre le terrorisme. Donc c'est à la fois, elle est pensée comme une solution, mais c'est aussi une partie du problème.
Oui, d'ailleurs, dans votre rapport, vous dites défi de la conversion des succès stratégiques, des succès tactiques en victoires stratégiques sur une bombe. Un dernier mot, Hamzat Boukhari Abara, sur cette question-là, parce que nous arrivons malheureusement au terme de notre discussion.
Oui, bah écoutez, moi j'ai tendance à penser que la présence française participe à déresponsabiliser des dirigeants africains qui, pour la plupart, traînent un certain nombre de casseroles en termes d'impopularité, et qu'il est nécessaire qu'il y ait un électrochoc. Il y a de nouvelles générations qui sont sans doute plus en capacité d'assumer ce concept des indépendances. Il y a effectivement un travail à faire sur les enjeux de sécurité, de renseignement, de démantèlement des réseaux, mais comme l'a rappelé Marielle Debeau, le militaire et l'humanitaire ne peuvent pas se substituer aux politiques, et il n'y a que les Africains qui ont la solution politique à tout cela. Donc il faut que ce soit les Africains qui reprennent, je dirais, l'initiative et le leadership de tout cela, et que la France s'écarte, je dirais, du chapeautage de tout ce qui est en train aujourd'hui d'être mis en place et qui ne peut pas tenir très longtemps à mon avis.
Un dernier mot justement sur ce point, Hamzat Boukhari Abara, il y a un sommet Afrique-France qui se tiendra à Montpellier le 9 et 10 juillet, dont un des maîtres d'œuvre est Achille Mbembe, grand penseur de la post-colonisation, qui avait inventé les ateliers de la pensée, je crois que c'était à Dakar. C'est très critiqué à l'intérieur même de tous ceux qui réfléchissent au destin du panafricanisme et de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en dites très, très brièvement, on arrive au bout de l'émission.
Je pense que ce n'était pas très pertinent. En fait, ce qui serait pertinent, ce serait de faire dialoguer les intellectuels africains avec des intellectuels français qui parfois se permettent des discours sur l'Afrique qui n'ont pas lieu d'être.
Merci à vous, Hamzat Boukhari Yabara. Donc, vous êtes historien, secrétaire général de la Ligue panafricaine, auteur entre autres d'Africa Unit, une histoire du panafricanisme à la découverte. C'était il y a 2 ans et on attend le travail que vous allez coordonner autour de la question de la France-Afrique. Merci à vous, Marielle Debeau. Vous êtes donc chercheuse à Paris Nanterre, à l'Institut des sciences sociales du politique, et autrice du livre Le métier des armes au Tchad. C'est aux éditions Cartala. Et merci beaucoup à vous, Soren Mauborgne, députée LREM du Var, rapporteur de la mission d'information sur l'opération Barkhane. On peut aller le lire, ce rapport, sur le site de l'Assemblée nationale. Il est fort intéressant, justement, pour parler de la place de la France dans la région du Sahel. C'était le temps du débat, une émission préparée comme d'habitude par Fanny Richet, Adèle Rosier, Mathilde Tonfourcade, Hugo Boursier, Rémi Baye et Bruno Barada. Nasser Moussaoui était avec nous à la technique et Alexandre Manzanares à la réalisation.